Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 19 avril 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, et d'autres infos à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Maintenant, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Des réunions limitées discutent des résultats de visite d'État en Arabie Saoudite. Le ministre Puspa Yoga s'est bien félicité des élections pacifiques de 2019 à Bali. Observateur dit le président élu fait le projet stratégique de transport en commun. Le ministre de l'Industrie a mentionné à quatre choses importantes pour mettre en œuvre l'industrie 4.0. Voici le journal complet. Après sa visite d'État en Arabie Saoudite, le 14 avril, le président Joko Widodo a discuté d'un certain nombre de résultats de la réunion convenue entre lui et le roi Salman bin Abdul Aziz. L'un d'eux est un quota supplémentaire de 10 000 hajj. Ainsi, le nombre de pèlerins indonésiens s'élève à 231 000 par an. Les résultats de la réunion ont été discutés lors d'une réunion restreinte qu'il a présidée au Palais Merdeka à Jakarta jeudi matin. À cette occasion, le chef de l'État a souligné l'importance d'une décision à prendre immédiatement par le gouvernement indonésien concernant des quotas supplémentaires pour les hajj et des projets d'investissement saoudien supplémentaires dans l'industrie pétrochimique.
Kunjungan kerja kita di Saudi Arabia yang pertama yang berkaitan dengan tambahan.
Nos visites de travail en Arabie Saoudite. La première, concernant un quota supplémentaire de 10 000 personnes pour nos futurs pèlerins. La seconde est également liée à la volonté d'augmenter les investissements de l'Arabie Saoudite en Indonésie. Tous les deux, je pense que nous devrions faire le suivi dès que possible avant que cette réponse soit achevée, en particulier le plan d'investissement de l'Arabie Saoudite en Indonésie qui a été livré hier. Les Saoudiens souhaitaient que l'Indonésie coopère avec les Saoudiens et fasse de notre pays comme liaison de l'industrie pétrochimique en Asie du Sud-Est. Auparavant, le président Joko Widodo et plusieurs ministres du gouvernement avaient effectué une visite d'État en Arabie Saoudite dimanche dernier. À cette occasion, le chef de l'État a rencontré le prince héritier royal saoudien Mohammed bin Salman. Ils ont discuté de la volonté d'accroître la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'énergie et de la pétrochimie. Le ministre indonésien des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Agung Gede Ngurah Puspa Yoga, s'est félicité de la mise en œuvre des élections pacifiques à Bali en 2019, si bien que les secteurs touristiques et économiques aux destinations touristiques préférées restent favorables. Le ministre Puspa Yoga, cité par Antara mercredi dernier, a salué l'enthousiasme de la population à canaliser son suffrage très élevé, en particulier à Bali, ainsi que la volonté de créer conjointement des élections pacifiques. Selon lui, une fête démocratique pacifique créera un système économique propice, y compris pour les micro, petites et moyennes entreprises indonésiennes. Joko Setty Joarno, observateur des transports de l'Université catholique Sugija Paranata, a estimé que le président élu devait faire du développement des transports publics comme projet stratégique national, tant dans les régions urbaines que rurales, régions défavorisées, frontalières et ultra-périphériques. Djoko Setijoarno a déclaré à Ankara, à Jakarta, que les transports en commun comprenaient les modes de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire. Selon lui, il y a encore beaucoup de travail à faire qui sont liés à l'amélioration des transports en commun, comme indiqué dans le plan national de développement à moyen terme de 2015 à 2019. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a mentionné quatre choses importantes dans la mise en œuvre de l'industrie 4.0, telles que l'utilisation de la technologie, la nécessité d'investir pour soutenir la disponibilité de la technologie, la transformation de l'éducation pour fournir une formation des ressources humaines industrielles et l'innovation, car c'est la clé de l'industrie 4.0. Le ministre a souhaité à Jakarta jeudi que la mise en œuvre de Making Indonesia 4.0 encouragerait l'industrie nationale à fonctionner optimal au monde. Parce que l'industrie est un pays partenaire officiel de Hannover Messe 2020. L'Indonésie sera le premier pays partenaire de l'ASEAN pour le plus grand salon de technologie industrielle au monde. Ce salon a l'occasion de devenir une vitrine des capacités industrielles de l'Indonésie, en particulier pour attirer les investissements et ouvrir les marchés à l'exportation de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'est tout le journal aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs. Le titre de commentaire aujourd'hui est « L'avenir égyptien sera déterminé par le peuple égyptien à travers le référendum. » L'Égypte est à la croisée des chemins pour devenir un pays démocratique par les élections ou un pays qui perpétue le pouvoir du président. Nous pouvons présenter cette hypothèse concernant l'initiative référendaire qui peut prolonger la durée du mandat d'Abdel Fattah el-Sisi jusqu'en 2030. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a commencé à servir le chef d'État de gouvernement de l'Égypte à partir de 2014, a réussi avec ses efforts politiques à réaliser un référendum. Samedi 20 avril, les Égyptiens voteront lors d'un référendum dont les résultats détermineront les changements ou les amendements à la Constitution qui détermine principalement le mandat du président de l'Égypte. Les partis politiques qui sont l'opposition du gouvernement ont fait un mouvement pour annuler le référendum qui a débuté le samedi 20 avril pour 3 jours. Par le mouvement appelé Mouvement démocratique civil, le groupe d'opposition composé de partis libéraux et de partis de gauche, lors d'une conférence de presse, a condamné les amendements à la constitution égyptienne. Si le référendum est approuvé par la majorité des Égyptiens, un amendement à la constitution égyptienne sera appliqué. Avec cet amendement, Abdel Fattah el-Sisi obtiendra probablement le mandat de devenir président de l'Égypte jusqu'en 2030. Cette période a rappelé l'opposition du mandat du président Hosni Moubarak de 1981 à 2011. Hosni Moubarak pouvait être renversé de son pouvoir à travers le mouvement démocratique comme le printemps arabe. Le mouvement d'opposition a appelé le peuple égyptien à rejeter le référendum qui a été fixé par le Parlement la semaine dernière. Si le peuple égyptien accepte un référendum qui est devenu la base d'un amendement constitutionnel concernant le mandat du président, la loi stipule qu'un président égyptien élu par une élection générale et a pris ses fonctions pour 2 mandats ne sera plus valable. Le président el-Sisi, qui a une formation militaire, est arrivé au pouvoir en 2014 après avoir renversé le premier président civil, Mohamed Morsi, qui a été élu démocratiquement par l'élection. L'Égypte continuera-t-elle à organiser des élections du président démocratiquement par des élections programmées ? Tout sera encore déterminé par référendum. Sous la base de l'expérience et de l'histoire, le peuple égyptien a certainement un record comme disposition pour voter dans un référendum qui débutera samedi. C'est tout le commentaire.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 avril. Le 19 avril 1953, Kiai Haji Wahid Hashim est décédé. Abdul Wahid Hashim est décédé à Cimahi, Jawa West, le 19 avril 1953, à l'âge de 38 ans, des suites d'une maladie. Wahid Hashim avait été ministre des religions au sein de trois cabinets, à savoir le cabinet Hatta, le cabinet Natsir et le cabinet Sukiman, et était membre de l'Institut indonésien pour les enquêtes sur les préparatifs de l'indépendance, BPU-PKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim s'est vu attribuer le titre de héros national par le gouvernement. Le 19 avril 1930, l'Association de football de toute l'Indonésie, PSSI, a été créée. La PSSI, l'Association indonésienne de football, est l'organisation mère chargée de réglementer les activités sportives de football en Indonésie. La PSSI a été créée le 19 avril 1930 à Yogyakarta sous le nom initial de l'Association indonésienne de football sportif, PSRSI. En tant qu'organisation sportive née à l'époque coloniale néerlandaise, la naissance de la PSSI a quelque chose à voir avec les efforts politiques déployés pour lutter contre le colonialisme. Le 19 avril 1971, la première station spatiale Salyut 1 est lancée et a inauguré le programme Salyut. Pendant 23 jours, des cosmonautes vivront à son bord. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Hi!
Voilà la chanson intitulée Demi Indonesia ou en français pour l'Indonésie, chantée par Netra. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre L'industrie manufacturière est la clé de la croissance économique de l'Indonésie. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est sûr que l'Indonésie progressera et se développera parce qu'elle dispose d'un potentiel extraordinaire en ressources humaines et naturelles. C'est ce qu'a affirmé le vice-président Yusuf Kalla lors de l'ouverture du sommet industriel indonésien 2019 à l'exposition de convention à Bumi Serpong Damai, le sud de Tangerang, Banten. Dans son discours, Yusuf Kalla est optimiste que l'économie indonésienne progressera davantage par l'industrialisation. Il est convaincu que l'Indonésie peut devenir le top 10 de l'économie mondiale en 2030. Cela correspond à la carte de la Road Making Indonesia 4.0 qui a été conçue. Selon Yusuf Kalla, jusqu'à présent, le secteur de l'industrie manufacturière a largement contribué au produit intérieur brut ou PIB national. Au cours des 4 dernières années, la contribution moyenne a atteint 21,30%. Autrement dit, l'industrie reste le principal contributeur au revenu national. Par conséquent, selon Yusuf Kalla, il est temps que l'industrie nationale ait besoin d'utiliser la technologie en cours de développement afin d'améliorer plus efficacement la productivité et la qualité. Parce que le progrès technologique a tout changé de manière de produire, de se comporter et de créer des relations sociales. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré que l'industrie manufacturière joue un rôle important dans la croissance économique nationale en contribuant pour 20% au produit intérieur brut ou PIB national. De la réalisation de 20%, l'Indonésie se classe au 5e rang des pays du G20. Cela signifie que l'industrie indonésienne continue de croître. La position d'Indonésie est après la Chine avec une contribution de son industrie manufacturière atteignant 29,3%, suivie de la Corée du Sud 27,6%, du Japon 21% et de l'Allemagne 20,7%. Le sommet indonésien d'industrie 2019 a été organisé par le ministère de l'Industrie pendant 2 jours, les 15 et 16 avril 2019. Cet événement est devenu un lieu de rencontrer les parties prenantes pour savoir l'évolution de la transformation numérique dans le secteur de l'industrie manufacturière. Environ 5000 participants à partir des acteurs de l'industrie, des gestionnaires des zones industrielles, des acteurs de la petite et moyenne industrie et des jeunes entreprises du secteur industriel, des ambassadeurs et d'autres ont assisté à cet événement. Le forum a également invité les ministres à discuter des questions et des politiques actuelles comme les politiques d'incitation fiscale pour l'innovation technologique et des investissements dans les entreprises industrielles. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
coba berdiri menahan sakit dan menangis.
Oh, tapi arti hidup lebih dari itu dan kita mencoba melawan.
Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian.
Panas tarik hujan badai kita lalui bersama.
Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian. Panas tarik hujan badai kita lalui bersama. Saatnya aku jalan, kau tahu kemana berjalan. Meski terang, meski gelap, kita lalui bersama.
Voice of Indonesia.
Voilà Bling avec sa chanson dont le titre est Seindah Biasa. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia à la longue courte de 3,3-5 kHz. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter Kua Maria Sendang Sono de Yogyakarta. Kua Maria Sendang Sono ou la grotte de Maria Sendang Sono est un lieu de pèlerinage pour les catholiques et un célèbre à Yogyakarta. Situé précisément dans le village de Banjaroyo, la région de Kulon Progo. Des pèlerins de toute l'Indonésie visitent cet endroit en mai et octobre. En plus de la prière, les pèlerins prennent généralement de l'eau à la source. Ils croient que l'eau peut guérir les maladies. Sendang Sono est nommé d'après son emplacement. Sendang signifie source d'eau et Sono signifie l'herbe Sono, de sorte que le nom indique que la source d'eau est située sous l'herbe Sono. Vous pouvez trouver d'herbe Sono et la source d'eau en tournant à droite de l'entrée, et malheureusement, vous ne pouvez plus voir la source d'eau directement car elle est recouverte d'une boîte en verre. L'eau est coulée à travers de petits robinets qui sont généralement utilisés comme un endroit pour se laver le visage où les eaux sont emportées pour être ramenées à la maison après avoir été priées devant la grotte de Maria. Avant 1904, cette source d'eau était mieux connue sous le nom de Sendang Semagung, servait d'escale pour les moines qui veulent aller dans la région de Boro, au sud de Sendang Sono. Mais depuis le 20 mai 1904, ou depuis l'arrivée du père Van Lid et le baptême de 173 habitants de Kalibawang utilisant de l'eau de source, ce lieu a commencé à fonctionner comme un lieu de pèlerinage pour les catholiques. La beauté de l'architecture de Sendang Sono a remporté le prix Aga Khan en 1991. le complexe de pèlerinage de Sendang Sono a été conçu par Romo Mangun Wijaya, également célèbre architecte en Indonésie. Voilà le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia. Merci à tous.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Goliath intitulée « Indonesia » ou en français « Indonésie ». Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, le film Miro Sableng sera projeté en Italie. Soyez toujours avec nous sur www.voice.id. Le film Mirko Sablon est devenu le seul représentant indonésien à avoir participé au Festival de films Extrême Orient ou FEWF 21 à Udine en Italie. Le film figurera dans la catégorie Festival Audience Award qui se tiendra du 26 avril au 4 mai 2019. FEWF est le premier film d'action dramatique avec la comédie qui est diffusé dans la région européenne. Après sa sortie dans les cinémas indonésiens et dans le top 10 du box-office 2018, ce film est également diffusé dans les salles de Singapour et de Malaisie et au Festival du film de Macau. Le film est réalisé par Angga Dwi Masa Songko et interprété par Vino J. Bastian comme Mirko Sablon, Ruth Marini comme Sinto Gendeng, Yayan Ruhian comme Mahesa Birawa, Serina Munaf comme Anggini et Faris Alfarizi comme Bujang Gila Tapak Sakti. Ang Bangdang plus d'un million de billets de cinéma depuis sa première diffusion le 30 août, Mirko Sablon est une adaptation du roman du même titre, l'œuvre de Defang Bastian Tito. Mirko Sablon a remporté plusieurs prix. Certains d'entre eux sont les 3 prix Citra, y compris les meilleurs stylistes de la mode, 5 prix Maya, y compris les meilleurs stylistes artistiques et le meilleur film à Indonesian Box Office Movie Award, IBOMA. Le Festival du film Extrême Orient est le plus grand festival de films d'Europe consacré aux films populaires en Asie depuis 1999. Au cours des 2 dernières décennies, ce festival organisé à Udine en Italie a présenté une série de films asiatiques populaires au public italien et européen dans le but de comprendre et d'apprécier le cinéma asiatique dans le siècle européen. Dans cette 21e édition, le Festival du film Extrême Orient présente un total de 76 films de 12 pays, y compris 51 films en compétition, une première mondiale pour 3 films et 14 films du réalisateur pour la première fois. C'est du temps, c'est un lundi encore pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Hari demi hari telah ku lalui, hanya menunggu dirimu. Nada demi nada telah ku nyanyikan, lantunan melodi jiwaku. Langkah demi langkah telah ku jalani, tuk gapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan, puisi cintaku padaku. Yeah.
nada demi nada telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwa.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Yuka Tamada, dont le titre est Poésie Chinta, qui signifie Poème d'amour. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de longue courte de 3,3 de 5 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson traditionnelle de l'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson intitulée Oina Nikeke. Oina Nikeke est l'un des nombreux héritages culturels indonésiens en forme de la chanson. Oina Nikeke est une chanson en langue Minahasa de la province de Sulawesi du Nord. Cette chanson a été créée par R.C. Harjo Subroto. La signification de cette chanson est l'amour d'une mère pour son enfant. Mais l'enfant y voit en réalité comme indulgence. Il n'y a donc pas d'affection réciproque de la mère et de l'enfant. Bon, chers auditeurs, voici la chanson dont le titre est Oina Nikeke.
Voice of Indonesia.
Lebih baik bagi
Of Indonesia.
Ada satu nona nona di sebelah kita berumah. Sehari dia pergi berjalan, dia bermama. Jalan sendiri, kalau kita bergerak dia cuma tertawa. Hei, satu kali sore-sore berjalan, nyana sangka-sangka torang dua baku dapat di jalan. Kau dia pemalu, kita jaga sing-sing panona masih ada di rumah. Dia balas kemari setengah marah-marah.
Seduh.
Voice of Indonesia.
C'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir et merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Au revoir!